You're with SBS Radio.
Le Premier ministre Scott Morrison met l'accent sur l'éducation pour réduire l'écart du niveau de vie des aborigènes. Et en France, à la surprise générale, un ancien Premier ministre nommé au Conseil d'État. Et l'Iran en ligne de mire dans une conférence à Varsovie alors que le pays subit un attentat sanglant. Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé aujourd'hui sa nouvelle stratégie pour réduire l'écart de développement socio-économique des communautés aborigènes. Le Premier ministre demande à se pencher davantage sur le secteur de l'éducation pour réduire cet écart. Il faut signaler que depuis la publication annuelle d'un rapport sur l'écart entre les aborigènes et le reste de la population, un rapport appelé Closing the Gap Report, seuls 2 objectifs sur 7 ont été atteints. Et selon le dernier rapport, les efforts pour l'accès à la maternelle des jeunes enfants aborigènes sont sur la bonne voie. Cependant, des normes comme l'espérance de vie, la mortalité infantile et l'emploi sont en régression. Parmi les mesures préconisées, Scott Morrison suggère d'annuler la dette des frais de scolarité des enseignants s'ils s'engagent à travailler dans des communautés aborigènes isolées.
I want to get kids into school. And I want them to stay in school for longer. That is what I wish to achieve. Education is the key to skills. It is the key to jobs. It is the key to building enterprises and giving young Aboriginal and Torres Strait Islander Australians the opportunity to create their futures. It is the key to a good life. If you can't read, if you can't write, there is no possible way you can share in the prosperity of Australia in the way you would otherwise.
Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, a salué ces mesures gouvernementales, mais il ajoute qu'elles sont insuffisantes. Bill Shorten ajoute qu'il faut aussi donner davantage de pouvoir aux aborigènes afin d'en faire des vrais partenaires.
To recognize the genuine empowerment has to involve the sharing of real power. You can't have a partnership of unequals. Partnership means giving as well as taking, listening as well as telling. Today I'm proud to declare again that enshrining a voice for First Australians will be Labor's first priority for constitutional change.
Et un sénateur du parti des Nationals souhaite l'instauration d'un prélèvement fiscal sur le lait pour une durée d'au moins 12 mois. Selon le docteur David Gillespie, député de la région de Lynn, un prélèvement de 10 centimes au litre est nécessaire pour aider la filière laitière qui traverse une période particulièrement difficile. Le docteur Gillespie affirme que les éleveurs dans sa circonscription ont besoin de soutien immédiat au risque de s'effondrer. Le député de cette circonscription de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré à la ABC qu'il demandera au gouvernement fédéral d'imposer ce prélèvement si les supermarchés ne font rien pour aider les producteurs laitiers.
They can't make any more efficiencies. They are very large, they are very efficient, but they are not getting a fair price. And we need to fix this.
Et une nouvelle caucasse au Parlement australien. On signale que le sénateur Brian Burston du parti United Australian Party et James Ashby, un conseiller du parti One Nation, se seraient affrontés hier physiquement dans l'enceinte du Parlement à Canberra. Le journal The Australian a publié des images montrant les deux responsables politiques en pleine altercation physique hier soir. L'incident ferait suite aux allégations révélées par Brian Burston un peu auparavant, des allégations selon lesquelles il aurait été victime d'avances sexuelles de la part de Pauline Hanson, la présidente du parti One Nation. M. Burston a déclaré à News Corp qu'il a été pris à partie par James Ashby alors qu'il s'apprêtait à quitter le Parlement en compagnie de son épouse. Une photo fournie par Brian Burston montre des blessures qui, selon lui, font suite à cette altercation. Et pendant ce temps, Pauline Hanson a nié les faits, déclarant à Sky News que les déclarations de Brian Burston sont mensongères.
I cannot stop laughing over this. I think it's hilarious. I'm sorry. I should be serious about this, but I can't stop laughing about it.
Et une autre affaire de pugilat, mais cette fois-ci en France, eh bien, l'ancien boxeur Christophe Détinger a été jugé hier pour avoir porté des coups contre deux gendarmes lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes. Christophe Détinger a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris à 30 mois de prison, dont 18 avec sursis. Pour les avocats de Christophe Détinger, la peine prononcée hier contre lui a comme un air de victoire. Il faut rappeler que l'ancien champion de boxe avait exprimé regretter ses actes pendant l'audience. Et toujours en France, Alain Juppé a été nommé pour siéger au Conseil constitutionnel. C'est une candidature inattendue alors que son nom circulait pour les prochaines élections européennes. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a proposé la nomination d'Alain Juppé pour rejoindre les Sages et Alain Juppé a accepté la nomination. Il faut signaler qu'à 73 ans, Alain Juppé doit remplacer le mois prochain un autre ancien Premier ministre, Lionel Jospin, pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite quant à lui nommer Jacques Mézard, un ancien ministre de l'Agriculture, à ce même Conseil d'État. Et on reste en Europe, où on annonce un attentat suicide survenu hier dans le sud-est de l'Iran. Un bus transportant des gardiens de la révolution a été visé par une voiture remplie d'explosifs, faisant 27 morts. Cet attentat sanglant survient au moment où l'Iran vient de fêter les 40 ans de la révolution islamique. On écoute un compte-rendu de ces événements avec Nicolas Falaise pour RFI.
Selon les gardiens de la Révolution, une voiture bourrée d'explosifs s'est approchée d'un bus qui transportait une unité des forces terrestres. Le kamikaze a alors actionné sa bombe. L'attentat meurtrier s'est produit dans la province iranienne du Sistan-Balouchistan, près des frontières pakistanaises et afghanes, une région où vivent de nombreux musulmans sunnites alors que la grande majorité de la population iranienne est chiite. Selon l'agence de presse iranienne Fars, l'attentat a été revendiqué par un groupe djihadiste, Jaish el-Adl. Ce dernier avait déjà revendiqué l'attentat qui a coûté la vie à un gardien de la révolution au début du mois. Dans les provinces du sud-est de l'Iran, les forces armées sont fréquemment visées par des groupes séparatistes ou islamistes radicaux. En septembre dernier, 24 personnes ont été tuées dans la région du Khuzestan quand des hommes armés ont ouvert le feu sur un défilé militaire. L'attentat avait alors été revendiqué par le groupe État islamique et par un groupe séparatiste issu de la minorité arabe d'Iran. La République islamique accuse régulièrement des pays étrangers comme l'Arabie saoudite de soutenir ces organisations.
Et l'Iran a été toujours dans l'actualité hier avec cette conférence organisée par la Pologne et les États-Unis sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient. La conférence a officiellement débuté hier avec l'arrivée des 65 délégations participantes à Varsovie. Mais l'événement avait été présenté clairement par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, comme un rassemblement des forces pour contrer la menace iranienne. Une prise de position qui, comme le rappelle Oriane Verdier de RFI, a créé la division, notamment parmi les délégations des pays de l'Union européenne.
Jusqu'au dernier moment, il était difficile de savoir comment allait se dérouler cette conférence et qui y participerait. Certains ont pris une position claire, la Russie et la Turquie par exemple ont décliné l'invitation, l'Iran n'était tout simplement pas invité. À l'inverse, les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, eux ont bien sûr répondu présent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs fait une entrée remarquée ce mercredi soir, posant main dans la main avec le ministre des Affaires étrangères Omanet. Mais dans un entre-deux, il y a par exemple certains pays européens, particulièrement la France et l'Allemagne. Leurs drapeaux sont présents à la conférence, mais pas leur ministre des Affaires étrangères. Leur homologue britannique, lui, sera présent uniquement pour parler de la crise humanitaire au Yémen. Il pourrait partir avant la fin de la conférence, une fois ce sujet abordé. Malgré les divisions, selon certains observateurs, cette conférence a un but précis, créer les prémices d'une coalition qui représenterait les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient, même après leur retrait progressif de la région.
Et en Espagne, après le rejet du budget du gouvernement socialiste hier par l'Assemblée, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, se voit poussé à quitter le pouvoir. Il annoncera demain la date des législatives anticipées qui se tiendront sans doute fin mars. On signale que la question catalane a joué un rôle prépondérant dans cette crise. Le Premier ministre espagnol avait besoin du soutien des partis catalans, mais ceux-ci de lui ont refusé. Écoutons les commentaires de Pablo Urstasun, un eurodéputé membre du parti anti-catalan, anti-indépendantiste catalan, la maire de gauche. Pablo Urstasun s'exprime au micro d'Anissa El Jabril de RFI.
Si nous voyons un petit peu le résultat des élections en Andalousie, ce qu'on a eu en fait, c'est une partie de l'électorat qui votait traditionnellement la droite démocratique a décidé de voter pour l'extrême droite, et il y a eu une démobilisation très très importante de l'électorat de gauche. Alors, tout l'enjeu pour éviter qu'il y ait une majorité en Espagne de droite avec l'extrême droite, c'est de mobiliser l'électorat de gauche. C'est toujours le problème de l'Espagne, la droite est au gouvernement quand la gauche décide de ne pas voter.
Et au Venezuela, les partisans de Juan Guaido reprennent de l'espoir. La journée d'hier a été celle de la mobilisation. En effet, de nombreux rassemblements de soutien à Juan Guaido avaient été organisés par des Vénézuéliens en exil dans plusieurs villes et dans plusieurs pays, dont la Colombie. Ces manifestations avaient pour but de soutenir le président autoproclamé Juan Guaido. Najet Benrabat, correspondant de RFI en Colombie, a participé à une de ces démonstrations à Medellín. On l'écoute.
Ils sont des centaines à s'être réunis sur la place des Lumières, près de la mairie de la ville de Medellín. Tous sont arrivés en Colombie pour trouver un moyen d'aider leur famille restée au pays. Aujourd'hui, l'espoir de rentrer à la maison renaît. Ana Laura Marin Luque vit depuis 2 ans en Colombie.
Avec tout ce qui se passe au pays, je sens qu'on est proche du grand changement. Le changement qu'on attend depuis des années et qui nous a coûté beaucoup. Trop de personnes sont restées là-bas.
Erickson Mendoza est arrivé il y a 1 an.
Guaido est mon président et un symbole d'espoir. Le peu d'espoir qu'on avait a grandi. Pour être honnête, on avait perdu la foi, on avait perdu nos rêves. C'est vraiment une grande joie de sentir qu'on est proche du retour, chez nous, avec notre famille.
Malgré les tensions autour de la livraison de l'aide humanitaire à la frontière nord de la Colombie avec le Venezuela, les manifestants sont optimistes. Le vice-président de la colonie des Vénézuéliens en Colombie également, Tony Vitola.
On sait que le cercle diplomatique et économique de Maduro est très robuste, mais on est dans un moment décisif qui va se jouer dans les semaines à venir. Ils vont chercher à négocier leur sortie.
En attendant, la mobilisation se poursuit.
Et un coup d'œil météo pour ce jeudi à travers les grandes villes australiennes. Perth, 28 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 23. Hobart, 21 degrés. Canberra, 27. Wollongong, 23. Sydney, 25. Newcastle, 25 également. Brisbane, 32. Cairns, 36. Et Darwin, 33 degrés. Et à la bourse, un dollar australien vous achète aujourd'hui 71 centimes de dollars US et 63 centimes d'euros. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Scott Morrison met l'accent sur l'éducation pour réduire l'écart du niveau de vie des aborigènes. Et en France, à la surprise générale, un ancien Premier ministre nommé au Conseil d'État. Et l'Iran en ligne de mire dans une conférence à Varsovie alors que le pays subit un attentat sanglant.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.